C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et c'est une grande joie aussi parce que ce temple me rappelle beaucoup de choses. C'était ici mon église quand je suis arrivée en France il y a plusieurs années déjà. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur nous a déjà précédés ici. Il est présent parmi nous et en nous. Et c'est lui qui nous accueille. Et je vous invite aussi à l'inviter, à l'accueillir comme lui nous a accueillis. Nous allons lire donc le prophète Ésaïe dans Ésaïe 43:16-21 pour que sa joie puisse être la nôtre. Ainsi parle le Seigneur qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau dès maintenant. Cela germe, ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Je mets de l'eau dans le désert des fleuves, dans la terre aride, pour faire boire mon peuple. Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en sa présence. Rassemblés par son appel, nous formons la maison du Dieu vivant.
Seigneur, notre cœur est joyeux de te savoir avec nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour célébrer. Merci pour l'appel que tu nous lances et qui donne du sens à notre existence. Merci aussi pour les frères et merci pour les sœurs qui nous aident. Merci pour ceux et celles que tu invites auprès de nous. Merci aussi pour les liens tissés et particulièrement au travers de la communion à l'Éternel. Eh bien, nous rendons hommage car il est pour toujours, de génération en génération, notre rocher, notre forteresse. Et amen. Nous allons chanter maintenant en prenant le psaume 100B, la lettre B, les quatre strophes, et vous trouvez ce psaume, page 117, dans votre recueil. Psaume 100B, les quatre strophes, page 117.
Voici l'annonce du pardon. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi, peuple, je serai pour vous, Dieu. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le chant 1407, strophe 2, page 217.
Avaient mis leur foi en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mettez la parole en pratique. Et nous chantons les deux dernières strophes du chant 14, 7.
Chapitre 2, versets 7 à 9. Le Seigneur, Dieu, façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur, Dieu, planta un jardin en Éden. Du côté de l'est, il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur, Dieu, fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir, et bon pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais.
Et nous poursuivons notre lecture du livre de la Genèse, cette fois au chapitre 3, du verset 1er au verset 7. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vie et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
Nous allons poursuivre avec Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Au nom du Christ. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les êtres humains, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si, par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen.
Nous lisons dans les évangiles Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa, et des anges vinrent le servir.
Et je vous invite à prendre vos recueils de cantiques, à vous lever. Nous allons chanter le chant 45-10. 45-10, les trois strophes de ce cantique qui se trouvent en page 691 de vos recueils. 45-10, les trois strophes.
Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler encore car nous avons tous besoin d'être enseignés et réconfortés, surtout en ces derniers temps où les combats contre l'ennemi sont rudes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. La question qui m'est venue tout de suite quand j'ai médité ce texte, c'était en quoi la tentation de Jésus nous aide à faire face à nos circonstances. Dieu sait combien nous avons des difficultés, des épreuves et des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Peut-être que nous les entendons loin, mais on ne sait jamais. On n'a jamais pensé que la guerre pourrait être en Europe. Et voilà, cette histoire va nous enseigner. Nous reconnaissons que cette histoire de la tentation de Jésus est une histoire réelle. Elle s'est bien passée dans le désert, juste après le baptême de Jésus au bord du Jourdain. Nous voyons qu'il y avait une lutte et les adversaires de Jésus étaient des esprits. Donc, il y avait un vrai combat dans le monde visible, mais en même temps aussi dans le monde invisible. Nous pouvons penser que pour nous aussi, nos combats sont semblables. Car Jésus, il nous dit dans Jean 13, 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Heureusement que par la victoire, Jésus a remporté la victoire et il nous apprend que nous pouvons aussi vaincre comme lui en utilisant les armes qu'il a utilisées. De nature humaine et de nature divine, Jésus n'a pu être épargné par le destin de tout être humain. Des tentations extrêmement dures et humiliantes. Jésus a été tenté en toutes choses. C'est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 15. En tout temps, en tout lieu, pendant les 3 ans, où il a accompli sa mission sur la terre jusqu'à la croix. Ces 3 tentations de Jésus que nous voyons ici, nous allons utiliser ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, 16 pour pouvoir avoir l'explication. Parce que nous savons que la Bible s'explique par la Bible. Donc l'apôtre Jean dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc pour Jésus, la tentation de changer des pierres en pain correspond à la convoitise de la chair. En utilisant ses pouvoirs divins à des fins égoïstes pour assouvir sa faim et sa soif. Ça semble, pour moi, être humain, normal, logique, mais Jésus connaît bien ce qui était derrière la tête de Satan. Pour nous, chrétiens, nous avons aussi à vaincre par le renoncement la convoitise de la chair ou les mauvais désirs. Le diable nous incite à ne pas faire confiance à la bienveillance de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il nous pousse à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, à mener nos combats et à combler nos besoins par nos propres plans et nos propres forces, et ne pas accepter de dépendre de Dieu comme il nous le demande. La deuxième tentation, qui consiste à se lancer du haut du temple, était aussi d'accomplir, pour pouvoir accomplir, la convoitise des yeux ou la soif de posséder. En se vantant devant le monde, en cherchant le sensationnel pour attirer l'attention, le regard, l'honneur. Pour nous aussi, la convoitise des yeux, ça peut être une recherche à tout prix de la richesse, du confort, de l'honneur, de la célébrité. Et le diable nous incite à douter de la bonté et du pardon de Dieu et nous pousse à nous exposer même volontairement, comme ici, avec Jésus au danger. La troisième tentation consiste à s'emparer immédiatement des royaumes du monde, et ceci afin de satisfaire l'orgueil de la vie. En cédant à la volonté de Satan qui veut empêcher Jésus d'aller à la croix pour sauver le monde, il cherche à insuffler en Jésus un esprit de défiance, d'infidélité et de désobéissance à Dieu. C'est le péché du manque de foi, de l'orgueil même envers Dieu. À ce moment-là, Jésus vient d'entendre une voix le déclarant fils de Dieu lors de son baptême. Et ici, le diable veut qu'il abuse de cette puissance. Vous voyez bien que Jésus n'est pas d'accord. Si nous ne demeurons pas dans la parole, le diable aussi peut nous conduire dans le péché en nous incitant à accomplir les promesses de Dieu auxquelles nous croyons. Mais lui, sa façon de faire, sa manière à Satan, c'est que par vos forces, par nos propres moyens, on va accomplir ses promesses sans l'autorisation, sans la permission de Dieu. Remarquons aussi que le diable ici se déguise en ange de lumière. Il utilise la ville sainte, Jérusalem. Il utilise le temple. Il utilise beaucoup la parole de Dieu. Et il propose à Jésus, « Si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. Tu n'auras pas besoin de passer par la croix. » Nous aussi, quand nous avons l'impression que tout se ligue contre nous, quand nous nous sentons sans consolation, sans force, abandonnés des hommes, séparés de Dieu, fermons les yeux un instant. Plaçons-nous dans notre vision intérieure, aux côtés de Jésus, pendant ces 40 jours au désert, visualisant tout ce qu'il avait enduré et souffert, puis demandons-lui de faire jaillir la foi dans notre cœur et de la faire grandir en nous. Soyons rassurés qu'il nous réconfortera, car il nous l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Notre Père céleste ne nous a pas oubliés. Il nous aime comme il aime son Fils, comme il a aimé son Fils. Il nous traite comme il a traité son Fils, et il nous rend conformes à l'image de son Fils. L'auteur de l'Hébreu, au chapitre 4, versets 15 et 16, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous voyons que Satan profite de ces moments de gloire et de bénédiction pour la tentation. Mais c'est aussi un moment choisi par Dieu parce que nous nous sentons fortifiés contre les attaques de l'ennemi. Il ne faut pas croire que Dieu nous délaisse. Les héros de la foi, nous en connaissons beaucoup. Moïse, les prophètes Samuel, Jérémie, les apôtres Pierre, Paul et bien d'autres encore, ils ont tous vécu des tentations extraordinaires. Bien sûr, ces tentations sont réservées aux plus forts, comme eux. Mais aussi, ça s'est passé dans les moments où ils étaient dans leur pleine force. Chère assemblée, c'est lors de ces moments de bénédiction que nous devons surtout veiller et prier, car souvent, c'est là que nous nous relâchons. Et Dieu qui connaît tout, il nous fortifie d'avance. Avant que Jésus commence sa mission à l'âge de 30 ans, le diable l'a laissé tranquille. Mais dès qu'il a commencé la mission, quand il a eu 30 ans, il a reçu cette mission qu'il a reçue de son Père céleste. L'enfer s'est déchaîné sur lui. Et à chaque point, à chaque pas, à chaque fois, chaque jour, il y avait des tentations. Ne soyez donc pas surpris que dès que nous acceptons de servir notre Seigneur, le diable essaie par tous les moyens de nous faire tomber, car ainsi il empêchera tout un peuple que nous pourrons atteindre d'entendre la parole de vie. N'ayons pas peur, car le Saint-Esprit n'est pas loin. C'est lui qui a emmené Jésus au désert pour être traité, pour être tenté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutons le conseil de Jacques. Il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». L'apôtre Jean nous rassure aussi en disant « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable ». Le diable, chère assemblée, est déjà vaincu par Christ, comme il a aussi vaincu nos péchés qu'il a cloué sur la croix. Il a vaincu nos maladies, il a vaincu nos souffrances, il a vaincu les malédictions, toutes les iniquités que nous avons héritées de nos ancêtres depuis Adam et Ève. Les tentations ne sont donc pas des hasards dans nos vies. Pour Jésus, cela faisait partie du plan de rédemption de Dieu. La théologie juive fait même mention du fait que le Messie devait être tenté par Satan dès le commencement de sa mission. Tout est déjà planifié par Dieu. Et c'est l'Esprit Saint, nous avons vu, qui le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est prévu dans le plan de Dieu. Mais pour nous aussi, chère assemblée, les tentations et les épreuves auxquelles nous devons faire face sont déjà prévues par Dieu. Elles sont utiles et nécessaires pour nous conduire dans la sanctification et à avancer dans la foi vers le royaume des cieux qui nous attend, que Jésus a préparé pour nous. Il est écrit, Paul a écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne. Et il ne nous pousse pas à pécher, mais il nous conduit dans la tentation pour nous éprouver, pour connaître ce qu'il y a dans notre cœur. Il est écrit dans Deutéronome 8:2, « Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Si nous résistons à la tentation, nous serons plus forts et plus fidèles comme l'or qui est purifié par le feu. Et si nous tombons, n'ayons crainte. Jésus, il est toujours là, prêt à nous relever. Ayant reconnu nos faiblesses, nous allons apprendre à accepter que seul Jésus et notre force. Apprenons à lui faire confiance, à dépendre de lui, parce qu'il est notre seul sauveur. Notre vie sera peut-être une succession de victoires et de défaites. Et Paul nous encourage en disant, Romains 5, 3 à 5, « Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Mes frères, dit Jacques, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. C'est dans Jacques 1, versets 2 à 4. Pour terminer, Jésus était rempli du Saint-Esprit alors qu'il était baptisé, et en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne fait rien de lui-même et il a jeûné 40 jours. Ainsi préparé, il a été tenté 3 fois, mais à chaque fois, il les a repoussés. Il était toujours vainqueur. L'arme unique qu'il a utilisée, c'est la parole de Dieu. Satan, vous savez, Satan, il redoute la parole de Dieu. Il est obligé de se replier, de partir, dès qu'on lui annonce avec foi la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul appelle la parole de Dieu l'épée du Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean, dans le livre des Apocalypses, l'appelle une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche de Jésus. C'est la seule arme offensive que Dieu nous donne. Soyons donc nourris quotidiennement avec cette parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit, car c'est l'assurance de notre victoire à toute épreuve. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ton enseignement sur les tentations. Tu veux que nous apprenions par ton exemple. Tu as souffert pour être rendu semblable à nous dans une nature humaine. Nous comprenons maintenant, Seigneur, que par nos souffrances, tu veux aussi nous rendre semblables à toi. Merci de nous appeler à nous approcher avec assurance de ton trône de grâce afin de recevoir miséricorde et afin d'être secourus dans nos besoins. Merci de faire grandir notre foi en toi afin que nous ne doutions jamais que tu es toujours là pour nous défendre. Car c'est toi, Jésus, que le diable attaque en nous. Tu as déjà triomphé de lui et tu triompheras de lui en nous parce que tu as été tenté comme nous. Merci Jésus de nous rendre vainqueurs comme toi. Amen.
Confession de foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde créé par Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les révoltes de notre raison et les limites de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit. Pour nous apporter la réconciliation et le renouveau, nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous assembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le règne de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen.
Thank you. Holy.